Ambiança pica.
A mega isa tia.
Bombio. Ambiança frica.
Pamba cae. Anyanga boya canilisa pogogogo. Moi ebimi. Mabe e comerina.
Leona sangi virjana.
Notre invité deuxième de la journée, déjà installé sur le plateau d'Africa Radio. J'accueille Bedel Bouana, analyste politique, critique littéraire, mais aussi auteur. Et c'est d'ailleurs avec cette casquette qu'il nous rejoint ce matin sur le plateau d'Africa Radio. Ne vous inquiétez pas, on va remettre le titre tout à l'heure. C'était juste l'introduction avant de vous accueillir, parce que vous êtes un amoureux de la musique et de la rumba particulièrement. Vous êtes aussi un amoureux de la littérature. On vous appelle aussi le dandy conflétaire. Alors, d'où ça vient ce nom? On vous appelle le dandy?
Le dandy pamphlétaire.
D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça vient, oui. Ce sont des gens, quand je passais sur Ziana TV, en fait, la chaîne congolaise au cœur des diasporas, animée par Ziana TV, et que les gens m'ont surnommé, que voilà, un dandy pamphlétaire qui tout le temps saccage, étrie, voilà, vilipende, voilà, intraitable. Voilà. Donc, du coup, bon, mais je l'ai accepté.
On dirait que ça vous fait quand même un petit peu plaisir,
non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Après tout, le mot dandy n'est pas péjoratif.
Ouais.
Voilà, et pamphlétaire, ça ne me gêne pas non plus. Je n'insulte pas, mais je critique. Et peut-être même à juste titre.
Alors, on vient sur le plateau de la radio africaine. Vous venez pour nous parler de votre roman. C'est paru aux éditions du Lys Bleu il y a quelques semaines. Ça s'appelle Brazzaville, ma mère. Alors, pour préparer cette émission, parce que je n'ai pas eu le temps de lire l'ouvrage, j'ai donc reçu un peu des avis de Marianne Fonet Ngombe, avec qui on collabore dans la rubrique littéraire. Alors, il nous dit ceci: ouvrir ce roman comme l'on pénètre connaître Brazzaville, s'enivrer de la trame ciselée comme des couleurs et des odeurs. Brazzaville, ma mère, vous retient. Une fois ouvert, vous n'avez plus envie de le refermer, comme si un levier magnétique s'enclenchait au fil des pages, au fil des rues, un corps à corps avec le lecteur, une immersion dans l'imaginaire congolais. Alors, vos impressions?
Je ne sais pas si Marianne Foné Ngombe m'a flatté, mais en tout cas, c'est bien écrit. Enfin, si c'est ce qu'il a ressenti, tant mieux.
Alors, l'histoire de ce roman, une jeune femme de 35 ans élevée à Paris par son oncle décide de renouer avec ses racines congolaises. Donc, elle rentre à Brazzaville pour voir cette mère qu'elle ne connaît pas vraiment. Et elle arrive, elle déchante, c'est la désillusion. Et elle se rend compte, en fait, qu'elle avait imaginé une maman qui est l'inverse de la réalité, une maman avec beaucoup de secrets. Alors, racontez-nous un petit peu la trame de l'histoire et dites-nous un peu pourquoi avoir décidé de raconter l'histoire de cette jeune fille élevée à Paris et qui retourne à Brazzaville.
Bon, en fait, l'histoire de ce roman commence en 2007. Je voulais transposer la flûte enchantée de Mozart. D'ailleurs, il y est fait mention.
Ouais.
Je reviens sur la flûte enchantée. Il y a trois principaux personnages. Il y a donc l'oncle, qui Tonton Al, qu'elle appelle Tonton Al, qui l'a soustrait à sa mère à l'âge de 2 ans parce que l'oncle a constaté dès le début, dès le départ, que ouais. sa petite sœur montre déjà quelques signes de nocivité. Ouais. Alors donc
pour
protéger sa nièce, il l'emmène à Paris. À Paris, il l'élève, mais tout en refusant de lui dire voilà, de lui parler de sa mère. Donc il attend le moment où celle-ci aura l'âge adulte ou ouais. sera mature
ouais.
pour découvrir elle-même. Disons, la vie de sa mère. Donc, dès l'ouverture du roman, il y a en quelque sorte 3 enjeux narratifs.
Oui.
Donc, d'abord, on lui demande de s'éveiller et de sortir de la caverne, en fait, la sortie de la caverne de Platon, et puis la fameuse phrase, une invitation à tuer l'homme, le vieil homme qui a en chacun de nous, donc meurt et devient. Donc, c'est pour dire que le chemin de la vérité, de la connaissance, est long. Il se met d'embûches et comme dans la flûte enchantée, mais si vous voulez, je donne le pouvoir aux femmes en quelque sorte,
ouais,
à la femme congolaise.
À la femme justement, et il est ici question de rapport mère-fille. Vous dites que c'est un sujet universel, il concerne aussi bien les Congolais que les Français. Alors pourquoi avoir décidé aussi d'aborder ce sujet assez épineux, le rapport mère-fille qui reste quand même un sujet assez mystique pour tout le monde?
Oui, alors déjà moi je suis fasciné par l'univers féminin. Voyez-vous, quand deux femmes intelligentes, voire trois, se chamaillent, il y a une sorte de dramaturgie que nous, les hommes, avons du mal à ressortir.
Ouais.
Donc, je suis fasciné par ça. Et d'ailleurs, je veux faire paraître aussi une pièce de théâtre intitulée « La vie des hommes
ouais. »,
inspirée de Franco Luambo-Makadi. Là aussi, je donne la parole à la femme et il y a souvent des tensions entre femmes. Et mon prochain roman aussi, ce sera toujours la femme, en fait. Donc, j'aime cet univers-là. Bon, pour revenir maintenant à l'universalité du sujet, oui,
ouais.
Les rapports mère-fille concernent tout le monde. D'ailleurs, il y a quelques jours, je regardais un vieux film là de 1994-95 je crois, 97, qui avait reçu même la Palme d'Or à Cannes, Secret et mensonge.
Ouais.
C'est une femme blanche qui a eu dans sa jeunesse une fille avec un noir, et puis quand la fille se met à rechercher sa mère, voilà, elle tombe des nues, c'est les tensions, voilà, cette mère qui la refuse,
ouais.
qui ne veut pas d'elle en quelque sorte. Donc, je ne sais pas si elle était dans un déni de grossesse. Donc, c'est effectivement comme dans mon roman. Mais il y a aussi des allégories.
Ouais.
Ces femmes peuvent être aussi des hommes, notamment pour le Congo-Brazzaville. On a beau crier ou bien étrier les hommes politiques congolais, mais ils ne sont pas seuls. Ils ont été accompagnés aussi par les femmes, et ces femmes aussi peuvent être aussi des hommes.
Ouais.
Donc ça peut être aussi des rapports, père-fils.
Ouais.
Donc voilà. Donc en tout cas, moi j'aime les romans qui abordent les sujets universels. D'ailleurs,
Les secrets de famille, mensonges, trahison.
Et même les violences faites aux femmes aussi, j'y reviens, comme dans le roman de la sœur Alphonsine Yelegabouya, que vous avez bien reçu ici, rendez-vous de Mon Bain Crochet d'ailleurs. Voilà. Donc, ce sont des sujets universels, bien que l'histoire se passe à Brazzaville, mais le sujet est universel. Et d'ailleurs, je reviendrai, si vous voulez, quand nous parlerons de la littérature congolaise sur ce sujet, en fait.
Alors, les secrets de famille également, qui sont très présents, on va dire, dans nos sociétés africaines, secrets, mensonges, trahisons familiales. Ce sont également des sujets qui vous intéressent, en fait, qui vous passionnent.
Oui, exactement, mais tout est secret, en fait. Personne ne peut dire sur cette terre qu'il n'a jamais menti, qu'il n'a jamais caché quelque chose. Chacun de nous porte toujours en soi un secret. Voilà, il aurait trahi quelqu'un ici, ou bien il aurait trahi quelqu'un ici. Donc, d'où, en fait, des scènes à répétition sur le secret, le mensonge. Et le premier rebondissement, d'ailleurs, dans ce roman, c'est la venue de la fille cachée de sa maman à Brazzaville, qui est métisse. Et la même fille qui est métisse vit dans le même secteur à Paris que la narratrice, en l'occurrence Florence.
Alors, il y a aussi et surtout question de la quête de soi ou que l'on soit, cette quête qui constitue toujours un long chemin semé d'embûches.
Exactement.
Vous en parliez tout à l'heure.
Tout à fait.
Et vous faites pas mal de références à la mythologie grecque dans le roman.
Exactement, ouais. Pour parler de la mythologie grecque, oui, il y a la meilleure métaphore, c'est celle d'Ulysse, qui est de retour de la guerre de Troie, veut rentrer à Ithaque. Hélas, il mettrait 10 ans. Donc, le chemin de la lumière est long, le chemin de la vérité est long. Oui, comme vous l'avez dit, oui, comme l'a dit Foné Ngombé, semé en tout cas d'embûches. J'aime ce genre d'histoire, je dirais que je ne suis pas contemporain de mon temps, donc moi, je puise mon inspiration dans les classiques, dans les anciens, parce que j'estime qu'ils ont tout écrit, tout comme en ce qui concerne aussi la rumba congolaise aussi.
Et la littérature aussi.
Et la littérature aussi. Je suis fan de Dostoïevski d'ailleurs, et de Sonia Labutansi.
Vous leur rendez hommage dans l'ouvrage.
Ce sont les deux qui ouvrent en quelque sorte le roman.
Oui.
Donc Dostoïevski qui m'a donné envie d'écrire en lisant Crime et Châtiment, L'éternel mari. Les gens pensent que Dostoïevski c'est seulement le sang, mais non, il y a aussi des sujets très importants. Il y a le grand Sonia Labutansi, qui, je le rappelle, vivait dans le même quartier que moi. Il était dans la rue Bemba Hippolyte et moi, je suis né dans la rue Biza, donc à quelques 100 mètres seulement, qui nous séparait. Et quand je suis retourné à Brazzaville en 1990, je suis allé lui rendre visite d'ailleurs. Voilà, il s'écriait il commençait déjà Le commencement des douleurs, son dernier roman. Voilà.
Alors, justement, la littérature congolaise, moderne, quel est votre regard, justement, sur ce courant, cette littérature congolaise moderne? On va se baser, par exemple, sur les 20 dernières années. Dites-nous un petit peu le nostalgique, on va dire.
Je vais être peut-être, on va encore me taxer d'intraitable, d'inflexible, comme je ne vis pas avec mon temps. En tout cas, je suis fâché avec le roman congolais, en particulier Intramuros, parce que je n'y trouve tout simplement pas mon compte, en fait. Donc, mon regard est caustique. Le roman congolais a ceci de particulier qu'il proclame des vérités, qu'il sonde, qu'il véhicule des pensées et parfois une allure discursive. On a reproché à Joyce, l'Irlandais Joyce, et puis même à Tolstoï dans Guerre et Paix, cette allure discursive, cette omniprésence de la pensée ou bien les incursions de l'auteur.
Oui.
Mais eux, ils l'ont fait. Mais cela n'enlève rien au roman. Au contraire, cette omniprésence de la pensée l'enrichit et élargit le domaine de ce que seul le roman peut découvrir et dire. Or, chez beaucoup d'auteurs congolais, pour ne pas dire écrivain congolais, qui s'essaye à cette façon d'écrire, la pensée dénote en quelque sorte un système d'idées préconçues. Voilà, comme je l'ai dit, cette omniprésence interroge. proclame des vérités, délaissant ainsi le périmètre magique des personnages. Pour ne prendre qu'un
ça
exemple.
Ça manque de profondeur, en fait, pour vous, c'est ce que vous voulez dire.
Il y a peut-être de la profondeur, mais c'est surtout ces incursions de l'auteur. On a le sentiment que c'est l'auteur qui parle plus que le personnage.
Ouais.
Or, le roman, c'est d'abord un sujet, une intrigue ou des intrigues, des coups de théâtre et puis des personnages. L'auteur n'a rien à voir. Donc, l'œuvre ne peut pas se confondre à l'auteur. L'œuvre et l'auteur ne peuvent pas être une seule personne. Du moins, c'est ma conception du roman. Pour ne prendre qu'un exemple, sur la guerre de 97, enfin, si guerre il y a eu au Congo-Brazzaville,
ouais.
Il y a eu au moins 200 romans sur ce sujet. Mais pour apprendre quoi ? Rien. Et on ne nous dit rien. Donc, du coup, cela contribue à abîmer la vue. Et comme dirait mon frère de corbeille, son Eric Jonel, Thomas Makarinkaya, que oui, ce genre de roman vous envoie directement à l'hôpital ou bien chez l'ophtalmo. Donc, du coup, je l'ai délaissé. Mais cela dit, il y a quand même des perles ici ou là. Ici, en France, il y a ceux que j'appelle les trois mousquetaires, Alain Mabankou, Dongala, Wilfried Nsondé,
ouais.
Auquel j'ajoute Alphonsine Nyelega Bouya, notamment avec ma condale Manson et puis le rendez-vous de mon bain crochet. De mon bain crochet, pardon. En deux livres, en fait, il a battu en quelque sorte ceux qui écrivent depuis longtemps, qui pendent au quotidien ou par mois un livre, qui tournent en rond. En fait, le roman congolais, c'est devenu le terreau du lieu commun, des clichés. Donc, ce sont des génies, en quelque sorte, des idées préconçues.
Alors, vous êtes aussi un amoureux de la musique, de la rumba. C'est vous qui nous avez recommandé le titre qu'on a entendu tout à l'heure, Viva Mandolina. On va en entendre un petit bout. Dans un instant, Viva Mandolina, c'est le groupe. Le titre, c'est Sango Yamboka.
En fait, le vrai titre, c'est Thermomètre.
Thermomètre.
Donc, c'est une chanson de l'année 86 qui a été composée par Aturé Machuamo, paix à son âme.
Ouais.
Il est parti. Mais les autres qui l'accompagnent dans cette chanson, Julien Claudia, Barreto et puis Lei Mamadou Yale, les sont encore vivants, ils sont d'ailleurs en France. Et d'ailleurs, je crois qu'ils vont donner bientôt un concert pour nous remémorer cette belle époque.
Alors, il y a justement dans le roman des références aux artistes, aux musiciens congolais, Papa Wemba, Kofi Olomide. Et j'ai lu sur votre blog, excusez-moi, que le regard que vous portez également sur la musique congolaise moderne, il y a un article que j'ai lu intitulé Fally, Ferré et Co. Comment ils ont tué la musique congolaise.
Oui, alors, si vous voulez, je n'écoute pas tous ces messieurs que vous venez de citer. Je partais quelque part, c'était la semaine dernière, nous étions en voiture. On écoutait une chanson d'un musicien de la RDC, J.P. Mpiana.
Ouais.
Ça commence libéré. Mais au lieu de nous laisser entendre, écouter le son, les accords ou les paroles, non, ce sont des noms. Un tel, un tel, oh, le général un tel, le caporal un tel, ah, Mwanga, ah, le sel, ah, le piment, ah, ceci ou cela. et ça m'énerve. Mais quand vous écoutez les vieux, les anciens, peut-être pas pour Kofi, parce que Kofi est là depuis 1976 jusqu'à présent, il demeure inoxydable, mais je n'écoute pas le Kofi des années 2000, moi j'écoute le Kofi des années 70 et 80 et 90.
D'accord.
Donc voilà pourquoi je lui ai rendu hommage dans sa chanson Zéro Faute, qui est une merveille.
Est-ce que vous vouliez dire d'autres choses sur le roman, peut-être d'autres choses qu'on n'a pas perçues, d'autres messages que vous passez à travers les...
Ce n'est pas à moi, en fait, de donner un avis sur mon roman. C'est aux lecteurs, aux potentiels lecteurs, voilà, de donner leur avis, de me critiquer aussi, comme moi je critique les auteurs congolais, ou bien d'ailleurs... Par exemple.
Comment on fait pour vous retrouver sur les réseaux? Comment on fait pour en savoir un petit peu plus? Et comment on fait pour se procurer le roman Brazzaville, ma mère?
Le roman, je suis en quelque sorte en délicatesse avec l'éditeur, qui n'en est pas un en fait. Tout simplement à cause de ça. J'avais, au moment où j'ai signé le contrat et que le livre paraît, je reçois un nouveau contrat. Mais le livre a du mal à être en librairie. Je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs, et même pour la promotion.
Sur Internet, je l'ai vu.
Et cela, oui, il est sur Amazon, sur la Fnac, Decitra, Cultura, tout. Mais ça contribue aussi à tuer les lettres, surtout congolaises,
ouais.
À cause des éditeurs à compte d'auteur.
Ouais.
Non, moi, je n'ai pas payé pour publier ce roman. Non, je ne paierai pas, jamais de la vie. Je ne peux pas écrire un livre et puis en plus aller payer. Mais c'est que l'éditeur derrière, après. C'est le point de discorde entre lui et moi, le plus
il
important.
Reste 30 secondes,
il me demande d'acheter des exemplaires, je dis non.
Petite conclusion, il reste 30 secondes, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer? Je sais que vous êtes très suivi ce matin par vos amis.
Oui, pour terminer, oui, moi je dis à ceux qui nous ont écoutés, s'ils ont le temps ou l'occasion d'acheter ce livre,
merci,
de le lire, et puis nous verrons, et puis je suis joignable sur les réseaux sociaux, sur mon blog aussi, donc voilà.
Merci à Marie-Anthony Ngombe également de nous avoir accompagnés dans la préparation de cette émission, merci beaucoup, c'est la pause, on se retrouve juste après avec un direct à Abidjan, bougez pas.